Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour avec Perrine Suquet et Laure Broulard. Et c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de l'heure du crime. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, on en parlait il y a quelques instants avec Sophie Orange et Vincent Parisot, une émission consacrée au témoignage de mon invité Francis Collomb. Bonjour.
Bonjour.
Très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Vous venez de publier chez Ixo Éditions, le récit de votre évasion qui est vraiment, d'abord, il faut le dire, une évasion rarissime. Très peu d'otages ont pu échapper à leur ravisseur. Je crois qu'en depuis 1997, vous deviez être le quatrième, et encore. Vous avez été pris en otage, on va parler de tout cela, puisque le livre est le récit de ce que vous avez vécu pendant ces presque 11 mois, 11 mois moins 4 jours. Hein.
Oui.
On va parler de ce qui s'est passé. On va parler surtout de ce qui s'est passé dans votre tête, parce que quand on lit les dépêches d'agence, je ne sais pas si vous l'avez fait en rentrant en rentrant en France et en récupérant la liberté, on lit les journaux. Moi j'ai regardé les dépêches d'agence. D'abord on va dire que vous êtes évadé parce qu'il y avait une opération de l'armée nigériane. C'est pas vrai du tout. C'était une fausse information, mais bon, les journalistes ne peuvent pas, n'ont pas le don de divination. Et puis après, on a dit oui, bah il a profité d'un moment où ses geôliers ne faisaient pas attention. On se dit voilà, il a poussé la porte, il est parti. En fait, ce qu'on découvre dans votre livre, et je voudrais qu'on commence à parler de ça ensemble dans un instant, c'est que dès le moment où vous êtes devenu otage, vous n'aviez qu'une idée en tête, vous confirmez, c'était vous évader tout de suite. Vous êtes dit
Oui, tout de suite, tout de suite.
Oui. Alors. Dites-nous d'abord, s'il vous plaît, Francis Collomb, ce que vous faisiez en Afrique. Vous connaissez très bien l'Afrique.
J'ai de l'ordre. Il faudrait reprendre mon CV, mais j'ai entre
En gros,
18
ça,
ans, ouais. Presque 19 ans en Afrique.
Voilà. Vous êtes ingénieur et vous installez. Qu'est-ce que c'est les éoliennes anticycloniques dont je parlais tout à l'heure?
Ben, c'est des éoliennes qu'on peut coucher en cas de cyclone ou en cas. Là, il n'y a pas de cyclone, mais il peut y avoir des armatans très violents. Et on peut les baisser, quoi.
D'accord.
Et comme maintenant la météo a fait d'énormes progrès, surtout vis-à-vis des cyclones, qu'on détecte le trajet 4-5 jours avant, on peut mettre à l'abri les éoliennes en les baissant.
De façon à ce que les gens puissent continuer à avoir de l'électricité. C'est vital, l'électricité, dans ces zones-là.
Mais le problème, c'est que le Nigeria est un pays producteur, mais il vend au Niger, il vend aux pays limitrophes, au Cameroun, il vend partout. Mais sa population, surtout nordique, il n'y a pas de courant. Ils ont de l'électricité une fois par semaine. Ça fait qu'ils ne peuvent pas avoir de congélateur, de frigidaire, etc. Et d'ailleurs, la commande au départ pour Katsina, de la région de Katsina, elle n'était pas par le gouvernement nigérien, la haute sphère, elle était par le ministre de l'Agriculture.
D'accord, ouais.
Qui voulait que sa région, donc Katsina, Rimi, et un peu d'électricité. Et la 37 éolienne, ça fournit quand même 10 mégawatts, quoi.
Ouais, d'accord. Donc c'est quand même important.
C'est quand même important.
Ouais. Et c'était votre boulot, quoi. En fait, vous étiez là avec toute une équipe, bien sûr, une équipe de Nigériens et des collègues français.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites le 19 décembre là, vous auriez dû rentrer, passer les fêtes chez vous à La Réunion, non? Les autres étaient partis chez eux, hein.
Oui, mais ça s'est passé avec un échange, parce que M. Jalon, qui était plutôt côté administratif de l'histoire, et moi, purement technique, il a des enfants, et moi, le fait de rentrer et puis d'aller à La Réunion, pour une semaine, 10 jours, passer sa vie, c'était pas la peine.
D'accord.
Donc j'ai dit, tu pars, tu vas passer Noël en famille, et quand tu reviendras, moi je repartirai, mais plus longtemps.
Voilà, et voilà, c'était le 19 décembre en plus, c'est votre anniversaire. Hein.
Exactement.
Vous allez fêter vos 63 ans.
Voilà.
Alors, on va revenir au récit de ce qui s'est passé ce jour-là, parce que votre vie a vraiment basculé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je vais vous faire entendre, parce que c'est vrai que vous avez commencé à entendre la radio d'ailleurs, mais ça on va en parler tout à l'heure, grâce à un poste de transistor que vos joailliers ont accepté de vous donner. Et RFI a été vraiment un fil très important, la radio est devenue quelque chose de très important pour vous, oui. Au cours de cette aventure. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu, c'est... ce flash spécial sur RTL. Nous sommes le 20 décembre 2012. Il est 19h. On vient d'apprendre que un ingénieur français a été enlevé au Nigeria. L'annonce du kidnapping fait bien sûr la une du journal de Julien Cellier et de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir.
Hier, une trentaine d'hommes ont attaqué des bâtiments de la société Vernier dans le nord du pays, société française d'éoliennes. Deux personnes ont été tuées et un de nos ressortissants, un ingénieur, a été kidnappé. Le Quai d'Orsay est pleinement mobilisé, c'est ce que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a indiqué à Isabelle Dat en Algérie pour RTL.
Des recherches ont été déclenchées. Il n'y a pas à l'heure actuelle, au moment où je m'exprime à votre micro, de revendication, mais nous sommes très inquiets parce que, évidemment, le fait que ils aient tué deux gardes, qu'ils soient puissamment armés et que ce soit une région dans laquelle il y a beaucoup de troubles est extrêmement inquiétant. En tout cas, les services français sont mobilisés pour essayer de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer cette personne. Et par ailleurs, des contacts sont pris avec la famille de cet ingénieur.
Voilà, donc là, on en est là, le 20. Alors, qu'est-ce qui s'était passé la veille, puisque vous vous apprêtiez à faire un petit dîner, d'ailleurs pas extraordinaire, mais enfin, une bonne bouteille de vin, oui, si. Cuisinier, vous avez préparé des petites choses.
Si, mon cuisinier, ouais. qui est un Togolais, mais qui parle à la Oussa et qui vit au Nigeria, m'avait préparé un bon petit repas. Et puis j'avais en réserve une bouteille de vin et voilà, c'était pour fêter mon anniversaire quoi.
Ouais. Vous étiez dans cette région du Nigeria à cette époque-là déjà, on parle de Boko Haram, on parle d'autres groupes djihadistes, il y a des mesures de sécurité, l'armée est quand même très présente. Votre villa, elle est protégée d'une certaine manière.
Oui,
vous avez conscience des risques.
Oui, elle était protégée, mais vous savez. Protégé par deux policiers quand il y a 15 personnes minimum qui arrivent, puis 15 personnes qui ont attaqué le poste de police, parce que c'est ce qu'on fait. Ils ont d'abord attaqué le poste de police, et les policiers, ils n'étaient pas armés, donc ils ont fui dans le bush, comme on dit, et après ils ont envoyé une fusée éclairante pour qu'on m'attaque à la villa.
D'accord, et là, il y a un autre groupe, un commando qui est arrivé.
Et purement militaire, c'est vraiment des... c'est des militaires, quoi. Après, ils ont fait sauter la porte à trois points.
Ouais,
c'est marrant.
Explosif, donc.
Oui, ils ont fait sauter la porte à trois points, la seule où il n'y avait pas de sas. Parce qu'autrement, il y avait trois points.
Donc, ils étaient bien renseignés, quoi.
Mais j'ai des forts doutes. Comme on dit vulgairement, j'ai vraiment été balancé, quoi.
Voilà. Alors, vous, évidemment, c'est la surprise totale. Vous avez une amie qui est venue regarder des DVD qui est là.
Voilà.
Vous arrivez à cacher derrière un canapé. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous vous rendez compte tout de suite que c'est.
Et puis, finalement, moi, j'ai tout de suite compris que je savais que c'était moi qui cherchais. Donc, effectivement, j'ai planqué la. Qui était là pour venir voir des DVD sur le cache. Il adore le cache américain. Et comme c'était mon anniversaire, on venait d'aller voir son fils, qui est en pleine zone de Boko Haram. Et elle m'a dit, je veux m'arrêter, parce qu'elle n'a pas de télé, elle
est déjà entre pas. Bonne occasion de venir passer la soirée.
Et je l'ai planqué derrière le canapé, puis j'ai poussé le canapé. De façon qu'ils croient que le canapé soit bien appuyé contre le mur. Et puis voilà, quoi.
Et là, vous ne savez pas si on vient vous tuer ou si on vient vous kidnapper.
Me tuer, j'ai vite compris qu'ils ne voulaient pas, parce que la première des choses qu'ils ont demandé, c'est de l'argent. Donc, moi, je leur ai expliqué que je n'avais pas d'argent, parce qu'on allait chercher à mesure à la banque et qu'il n'y avait pas d'argent.
Donc vous n'étiez pas certain à ce moment-là que c'était un groupe djihadiste qui venait, que c'était un enlèvement à connotation politique, quoi.
Si, c'est vite arrivé dans le transport, déjà. Parce que dans le transport, il y a des anecdotes que j'ai même oublié de raconter dans le livre. Oui. À un moment donné, à force des trous et des bosses, il tombe en panne de voiture. C'était parce que la cosse batterie s'était débranchée, quoi. Oui. Puis il prenait une clé pour taper dessus. Et je leur ai dit, mais on ne tape pas sur...
Voilà, quoi. C'est l'ingénieur qui se réveille, quand même, malgré la situation.
Ouais. Et ça m'a permis de... Ouais. Là aussi, de penser à un brevet, quoi. Ouais. J'ai copié sur une bouteille de champagne.
C'est extraordinaire.
Parce qu'en Afrique, les cosses se déconnectent à force de la tôle ondulée et des trous. Mmh. Et là, moi, j'ai créé une bosse au fur autour de la... Et deux domi-kyoki qui viennent en Shanghai, ça fait que même avec
pour empêcher la cosse de
virer, quoi. De virer, et qu'il y ait toujours une connexion pour que la batterie soit toujours rechargée.
Alors, il y a ça, bien sûr, mais quelques heures avant ou quelques minutes avant, vous avez vu que c'était un drame. Enfin, les deux gardes ont été tués. Il y a un malheureux gamin de 15 ans qui était là par hasard parce qu'il rechargeait son téléphone portable dans la villa, quoi. Oui. Vous savez que les gens qui vous emmènent sont extrêmement déterminés, quoi.
Ah, c'est pas détendre. Et puis, bon... m'ont quand même mis un sac plastique sur la tête, que j'avais du mal à respirer. Et ils m'ont foutu dans le coffre de la voiture, sur les premiers... sur le départ, quoi. Et c'est un coup de cosse.
C'est ça, des violences, quand même.
Et pour sortir, ils m'ont dit, « Ah, mais tu connais le chemin. » Et je suis ressorti par un chemin où il y avait double porte, pour éviter de repasser dans le salon où il y avait le canapé, et derrière le canapé, il y avait quelqu'un qui était pour rien.
Voilà. Oui, bien sûr. Alors, on va faire une première pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants et on va parler de cette captivité qui s'est déroulée en deux temps, mais pendant des mois, vous avez tout fait, chaque jour, chaque minute, pour essayer de mettre sur pied un scénario d'évasion, et c'est de cela dont on va parler dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est Francis Collomb, cet ingénieur français enlevé par un groupe djihadiste radical au Nigeria, qui va passer près de 11 mois en captivité, qui va réussir à s'échapper tout seul, alors que il raconte évidemment son aventure chez Ixo Éditions. C'est un livre qui est absolument passionnant, que j'ai vraiment lu, comme disait le président Hollande, comme un livre d'aventure. Francis Collomb, on y apprend également, et c'est un petit peu une histoire en parallèle, la vôtre d'un côté, et puis qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de la DGSE, les services secrets français, au ministère des Affaires étrangères, où il y a des gens, vous en êtes persuadé, vous déjà, dès le début, mais vous n'avez pas de preuves qu'on s'occupe vraiment de vous, mais vous l'avez appris évidemment au cours de tout ça. Donc voilà, donc c'est le récit de cette évasion mûrement réfléchie, c'est le moins qu'on puisse dire, 11 mois en deux fois, et puis aussi le récit de ce que fait cette cellule qui s'active évidemment malheureusement à chaque fois qu'un Français est en danger et est pris en otage. Dans votre famille, évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'angoisse évidemment terrible, partagée par tous vos proches. Le 27 décembre, on va entendre un autre document RTL. On en sait un peu plus. On sait que c'est un groupe djihadiste qui est à l'origine de votre enlèvement. On l'a dit, votre famille réside à La Réunion, donc ils sont un peu coupés de tout, ils sont loin. On sait que vous êtes malade du cœur également, on va en parler tout à l'heure. Et votre belle-sœur, Gilda Marbois, se confie sur RTL au micro de Béatrice Adjadj.
Jeudi, vendredi, samedi, le Quai d'Orsay nous a tenus au courant. Depuis, plus personne nous appelle. Donc nous, on se sent abandonnés. Je ne sais pas s'ils ont fait la trêve de Noël, mais nous, il n'y a pas eu de trêve pour notre angoisse et notre inquiétude.
Vous êtes d'autant plus inquiète que votre beau-frère a besoin d'avoir des médicaments.
Il est malade. Il a besoin d'un traitement régulier, quotidiennement. Alors le Quai d'Orsay m'a rassuré que quelqu'un est allé enquêter sur place et que dans la villa où il habitait, il n'y avait pas de trace de médicaments. Donc il pense que les médicaments ont été emportés. Combien de temps il va tenir avec son traitement, je ne peux pas vous dire. Combien de temps il va être retenu en otage? Est-ce que les médicaments qu'il a en sa possession, ça va durer le temps de sa captivité? Ma sœur, elle dit que au moins que j'ai des nouvelles de mon mari, qu'on me dise qu'il a encore envie, qu'on me dise qu'il va bien, qu'on me dise qu'il n'est pas torturé. On vit vraiment dans le doute et dans l'inquiétude.
Ces médicaments, vous les avez eus?
Non. Je n'ai pas eu. Le seul truc que j'ai réussi à avoir auprès de mes ravisseurs, c'est de la Ventoline. Donc, c'est tout. Et
parce
après,
que vous aviez eu un pontage cardiaque hein, quelques années avant, c'est ça ?
En 2001.
Donc, vous aviez des médicaments. Vous aviez pris ces médicaments, alors, effectivement ?
Non, j'ai pas pris.
Non, parce que vous ne les avez pas pris, vous n'aviez rien, quoi.
J'avais rien. D'ailleurs, c'est pour ça que, durant ma détention, j'ai eu quand même 3 alertes cardiaques assez... Ouais.
Et heureusement que les médecins vous avaient donné des conseils au cas où vous auriez... parce que vous racontez que vous faites de l'automédication, si j'ose dire, des coups de poing dans la poitrine. Oui, mais ça a dû être une angoisse maximum.
C'est plus une formation de chantier, de sauvetage. Ah oui. On sait que si on a un malaise sur un chantier, moi, je sais faire un pontage cardiaque parce qu'on m'a appris.
Oui, oui.
Donc... moi, là, je ne pouvais pas me le faire parce que je ne peux pas m'appuyer sur la poitrine, mais je savais qu'à taper pas très fort, ça pouvait, si mon cœur lâchait, ça pouvait le faire repartir. Quoi. Ouais.
Et en même temps, vous ne vouliez pas que vos ravisseurs connaissent exactement votre état de santé. Vous vouliez leur montrer que vous étiez toujours une valeur marchande.
Ah ben, les seules fois où ils sont rendus compte d'un état de santé... c'est quand j'ai eu la dysenterie, quoi.
Oui.
Parce que là, j'ai passé ma vie sur le saut, c'est le cas de dire.
Oui.
Et puis, j'ai perdu énormément de poids aussi. Oui. Parce qu'une dysenterie carabinée, ça pouvait perdre, vite fait, 10-8 kilos. Hein.
Voilà, oui, vous avez, au bout des 11 mois, vous aurez maigri de 40 kilos,
hein, oui.
38 kilos exactement.
Oui.
Bon. Alors, revenons sur vos conditions de détention. Il y a ce périple en voiture, chaotique, qui est évidemment déjà difficile et angoissant, parce qu'en plus, on vous met un sac sur la tête, etc. Vous allez faire connaissance, si j'ose dire, avec votre cellule, enfin l'endroit où vous allez être retenu dans, vous ne savez pas pour combien de temps, dans cette maison. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant votre livre, L'Évasion, c'est que, dès le début, il y a cette espèce de détermination, cette volonté d'observer, d'engranger, éventuellement de sauter sur la moindre chose qui pourrait vous servir à une évasion. Je pense à ce clou que vous trouvez, hein. Vous trouvez un clou qui est tombé au sol. Vous allez l'affûter, vous allez en faire une arme, en fait, au cas où vous en auriez besoin.
Oui.
Enfin. Et un matelas. Un matelas dégueulasse. Hein, c'est le mot que vous employez.
Je ne l'ai pas eu tout de suite, le matelas.
Oui, en plus. Oui, vous avez une natte un peu pourrie, et puis après un matelas. Et ce matelas, vous l'avez soigneusement nettoyé au savon, centimètre par centimètre. Oui. Donc ça, c'était aussi une volonté. Pourquoi vous avez fait ça?
Mais c'est, vous savez, déjà, moi, sur l'hygiène, je suis assez... Mais en Afrique, il faut avoir une hygiène encore beaucoup plus poussée. Quand vous travaillez sur un chantier, vous arrivez à prendre 4 douches par jour. Hein.
Oui.
Parce que on est en Afrique. Et puis, malheureusement, des grosses maladies comme Ebola et tout ça, ça le prouve.
Oui,
donc, dès le départ, il faut avoir une hygiène très, très forte, très poussée. Quoi.
Oui, oui.
On ne peut pas se permettre de rester un jour, oui. Un jour
mais
et demi.
C'était
sans...
aussi une manière de garder votre dignité. Je crois que ça, c'était quelque chose qui était important pour
oui,
vous, par rapport à ces ravisseurs. Quoi, en fait, oui.
Je passe de leur montrer toujours qu'on est tiré. J'ai eu du mal à me coiffer, d'ailleurs, parce que j'ai eu un peigne longtemps après, mais je me mouillais les cheveux, et puis j'essayais toujours d'être propre.
Et vous avez réussi à essayer à ne jamais rater une occasion de prendre un ascendant, j'allais dire, psychologique sur vos ravisseurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que celui que vous appelez le manager dans votre livre, qui est le
patron,
le patron, quoi. Bon, à chaque fois qu'il vient vous voir pour quelque chose, vous exigez quelque chose pour améliorer votre quotidien. Un bout de miroir,
Alors je l'ai même.
De l'eau chaude.
Je l'ai même surpris beaucoup parce que. Abdoul, qui est mon
gardien
principal,
quoi.
Ouais, ouais. Il m'avait donné un petit livre, une traduction à Oussa, anglais.
Ouais.
Et après, moi, quand je savais que le manager allait venir, que je l'avais fait, je l'avais demandé, j'ai écrit à Oussa avec ce. Et il a été très surpris à un moment donné. Il me dit, mais vous avez appris la Oussa en si peu de temps à Rimi? Oh, j'ai dit non, oui, le chauffeur. On parlait, puis il m'apprenait là où ça. Puis moi, j'aime bien parler la langue locale. Bon, même si on la baragouine.
Oui, parce d'accord. Que... Mais lui, c'était important pour vous qu'il sache que
je comprenais.
Qu'il soit persuadé que vous compreniez. Voilà.
Comme il faut là où ça. Voilà. Et c'était important, parce que ça me permettait de. Ben, il faisait attention. Et après, il parlait en arabe.
Oui.
Ils ont reparlé, quand ils parlaient entre eux, qu'ils étaient des fois pas loin de la porte, ils parlaient en arabe.
Oui, pour que vous ne compreniez pas. Voilà. En fait. Alors, on va faire une nouvelle pause. C'est une pause publicitaire qui est suivie, en général, à cette heure-ci, d'une chanson. Et cette chanson, on ne l'a pas choisie par hasard, vous allez la découvrir avec nous dans un instant.
L'heure du crime, sur RTL.
C'est bien sûr Stromae, ici tout le monde connaît la chanson, Francis Colomb. Vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que ça représentait cette chanson pour vous ?
Ben, moi je m'identifiais à cette chanson parce que vu les 26 pays différents et les absences que j'ai eues par rapport à ma famille, pendant 7 ans j'ai pas vu mon père.
Ouais, c'est vrai.
Quand il était décédé, j'étais en Arabie Saoudite, mon passeport était bloqué dans un coffre-fort. J'ai pas pu rentrer pour son enterrement, donc... Ouais. Voilà.
Et ça veut dire aussi que pendant ces heures très longues, évidemment, les heures de captivité, vous le savez maintenant, avec le recul, c'est très très long. Il y a à la fois, et on va y revenir dans un instant, ce projet d'évasion qui vous occupe. Il y a des inventions, des brevets, on comprend que vous ayez envie aussi, de faire quelque chose, mais de positif. Et puis ça vous permet de penser à après, mais il y a également, on pense aussi à sa vie, à son passé, à sa famille en fait.
Oui.
Et ça, vous avez pu le faire grâce à ce poste de radio branché sur RFI, qui est devenu votre compagnon, quoi, en fait.
Oui. Et j'écoutais même la voix de la Russie aussi, Boris Toumanov, qui moi je trouve à des émissions en français. Parce qu'il porte un jugement sur les Français, mais vu de la Russie.
Ouais.
Et moi, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours aimé le journalisme étranger aussi, parce qu'il a un jugement, on va dire, beaucoup plus sévère, beaucoup plus...
Ouais,
d'ailleurs,
regard,
quand il y a eu le mariage pour tous, il a commencé son émission en calquant sur le pygmée qui reçoit une bouteille de Coca-Cola sur la tête. Il a dit les Français.
Les dieux sont tombés sur la tête.
Voilà.
Ouais.
C'est ce genre de truc qui m'ont fait rire. Ça me permet de...
En même temps, ça vous tenait, c'était le fil qui vous tenait à l'actualité. C'est comme ça que vous allez entendre un jour la voix de votre épouse. C'est comme ça que vous allez savoir qu'on s'occupe de vous. Et vous dites, les journalistes que j'avais l'habitude d'écouter, en fait, ils faisaient partie de ma famille, quoi, au bout de quelques mois.
Comme Juan Gomez, comme Annie Gasnier, ouais. À RFI. Claude Issiard avait ses émissions le soir sur la musique et il fait beaucoup de représentations de musique africaine. Donc,
Mais c'était bon pour le moral, comme on dit, pour
reprendre. C'est plus que bon pour le moral, ça permet de ne plus penser qu'on est en captivité.
Ouais.
Je vais réemployer un mot, le mot du... C'est une évasion. C'est une évasion perpétuelle quand vous allez... Vous ne vous sentez plus en prison.
Au moins, si on peut s'échapper dans la tête, c'est déjà pas mal.
On s'échappe dans la tête et c'est ça qui est formidable.
Mais en même temps, Francis Colomb, vous n'oubliez jamais qu'un jour, ce n'est pas dans la tête que vous allez vous évader, mais pour de bon.
Ah oui.
Alors, il y a ce matelas dont je parlais tout à l'heure, vous le mettez au centre de la pièce. Et là, il y a une raison. Et ça fait partie de votre plan d'évasion.
Oui.
Le matelas au milieu.
Oui, parce que, disons que je savais que, moi, quand ils m'ont pris, j'étais déjà en surpoids. Je faisais 108 kilos et il fallait que je perde du poids. Mmh. Et ça, je le savais parce que...
Pour être plus souple, pour pouvoir courir plus vite.
Exactement. Ouais. Et puis même le mur, il fait 5 mètres. Moi, je fais 1m83. Avec des artifices et des calculs, je pouvais faire plein de choses. Mais après, même si je me pends le long du mur, 1m83 sur 5 mètres, on peut se fouler une cheville et tout ça.
D'accord.
Donc il fallait que...
Plus vous êtes léger, mieux c'est quoi.
Il fallait que j'enlève du poids. Ouais. De toute façon, la nourriture m'aidait aussi, parce que des pâtes et du riz, tous les jours, de temps en temps, un bouillon cube magique, qui n'était pas même pas magique.
Oui, ça, c'est quand vous avez arrêté de faire la grève de la faim, hein, parce que vous avez refusé aussi à un moment, pendant pas mal de temps. Alors, ce matelas, le mode d'emploi, c'est quoi ? Vous marchez autour ?
Oui, alors je marchais autour, puis je faisais du fractionné, je calculais, je comptais le nombre de...
Du fractionné, c'est-à-dire, vous dites, il faut que je fasse 10 km par jour,
Je faisais aller-retour.
Oui.
Je comptais tous mes allers-retours.
Oui.
Et puis, quand vous avez 4 mètres, 3 et 3, Donc vous comptez, et puis quand mais par contre, je m'arrêtais, je m'asseyais, je reprenais mon carnet.
C'est ça, et ça c'est le fractionné, c'est-à-dire vous, certaines fois vous marchez très vite, d'autres beaucoup plus lentement,
et ça,
etc.
Ça, on apprend ça au rugby.
Voilà. Mais en même temps, vous vous cachez de vos... vous ne voulez pas que vos ravisseurs sachent que vous entraînez votre condition physique, en fait. Mais donc il y a un jeu de cache-cache tout le temps.
Moi, chaque fois que je passais sur la... près de la fenêtre, je jetais un œil. Et puis si je voyais qu'il y avait du mouvement ou qu'ils allaient arriver, c'est sûr que je me rasseyais tout de suite.
Voilà.
Tranquille.
Alors il y a autre chose, et ça évidemment, bon, comme dit l'autre, ça ne s'invente pas, ça se trouve que dans les livres ou dans les romans d'aventure. Vous avez étudié les situations, vous avez fait des plans de l'endroit où vous vous trouvez, la cour, il y a deux cours, il y a un portail, mais vous avez remarqué que ce portail, pour l'ouvrir, ça va être difficile parce que la serrure est rouillée, il y a un loquet, mais qui est pris dans la rouille, quoi. Or, vous savez que la liberté, pour vous, elle est derrière cette porte, mais qu'il faut d'abord l'ouvrir. Et vous allez inventer un procédé incroyable, et je vous avoue que quand j'ai lu le livre, parce que vous nous remettez dans la situation, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, pendant combien de semaines ou de mois vous avez essayé de dissoudre, par un moyen que vous allez nous dire, la rouille de ce loquet?
Ben oui, je récupérais, parce que s'ils font quand même de la cuisine assez grasse, je récupérais un peu de l'huile de palme.
Oui, vous aviez de temps en temps des beignets qu'on vend dans la rue, quoi. Oui.
Et j'ai mis ça dans un bouchon de quand il m'apportait de l'eau. Oui. Parce qu'au Nigeria, l'eau, c'est des sacs en plastique.
Oui, oui.
Et de temps en temps, il tombe en rupture.
Oui. Là, il y a une bouteille, quoi.
Et il vous apporte une bouteille. Et là, c'était précieux pour moi, parce que avec le bouchon, je mettais l'huile de palme, je sortais...
Des beignets, quoi. Les beignets que vous mangiez le matin. Oui. Vous pressiez le beignet pour avoir de l'huile, quoi.
Oui, oui. Et puis, je mettais même, des fois, dans le riz, et les pâtes, hein. Des fois, il restait...
un parce que c'est marrant,
elle est orange, elle devient orange, parce qu'elle a pris le... Bon, je mettais ça dans le bouchon, je le planquais dans ma main... Et puis, quand ils ne me regardaient pas, parce que j'avais toujours un gars devant et un gars dans le dos.
Oui.
Alors, comme je faisais là aussi des allers-retours quand ils me menaient en promenade, bon, le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est à donner des grands coups de pied dans le loquet.
Oui.
Il ne bougeait pas.
Oui.
Après, j'ai versé
de l'huile. Donc,
de l'huile
régulièrement, quand vous faisiez votre promenade, et quand vous étiez autorisé à vous promener à l'extérieur, en passant près du loquet, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, personne ne vous regarde. Vous huilez le truc et vous donnez des coups de pied.
Et quand je savais...
Vous dites, parce que l'huile, ça dissout la rouille.
Oui, mais ça permet à quelque chose de rouiller. C'est pour ça qu'il y a les fameux sprays, là.
Oui, bien sûr. Bah, bon,
ça permet...
Faut le savoir, mais faut y penser, comme on dit.
Voilà. Et comme je savais exactement le nombre d'allées et venues, c'était de l'ordre de 100.
Ouais.
Quand j'arrivais, après, à 98, 97, et bien là... Je me baissais, je ramassais une poignée de latérite et je refoutais sous le loquet pour maquiller le...
Pour maquiller, pour que personne s'aperçoive que vous aviez huilé le truc. Et disons-le, parce qu'on ne va pas faire le suspense comme dans le livre, mais au bout de combien de temps vous avez donné un coup de pied, puis le loquet a...
Oh, ça a 2 mois et demi.
Deux mois et demi. Mais ça montre la détermination qui était la vôtre. Ce qui est terrible, comme dans les romans, c'est qu'au moment où vous savez que vous avez gagné votre ticket de la liberté pour ouvrir cette fameuse porte, ils décident de vous changer d'endroit et de vous détenir ailleurs. On va faire une pause et on va se retrouver avec Francis Colomb dans un tout petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Francis Colomb, qui témoigne dans cette émission, comme il le fait dans son livre qui vient de paraître chez XO Éditions, L'Évasion, avec ce sous-titre « Otage des djihadistes au Nigeria ». Il a tenu tête à ses geôliers pendant 11 mois. Il n'a pensé qu'à une seule chose, s'évader. On comprend mieux la substance de ce sous-titre en vous écoutant. Alors, évidemment, du côté de votre famille, c'est l'angoisse. J'ai dit tout à l'heure que vous avez entendu votre épouse Anne-Marie un jour sur RFI. On va l'entendre là, mais à travers un document RTL. C'est un document du 12 mars 2013, c'est-à-dire ça fait pratiquement 3 mois que vous êtes en captivité. Il y a déjà l'angoisse de savoir que vous êtes en captivité, et puis là, l'angoisse va monter encore d'un cran pour vos proches, parce que on vient d'apprendre que le même groupe que celui qui vous a pris en otage, Ansarou, vient d'exécuter
7
otages étrangers quelques jours auparavant. Et c'est à l'époque Christophe de Croix qui appelle votre épouse Anne-Marie, qui justement à ce moment-là vient de recevoir une preuve de vie de votre part. Mmh. Écoutons-la.
C'est le Quai d'Orsay qui parlait que mon mari était toujours en vie. Et ils ont dit aussi que je risque d'avoir une vidéo de Francis dans la semaine qui suit.
Nouvelle vidéo.
Voilà. Alors je ne sais pas quand. Je ne sais pas s'ils ont déjà reçu ou pas. J'ai vraiment, vraiment l'angoisse. J'ai peur d'entendre que l'espèce d'otage a été tué. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour mon mari. Je ne dors plus. C'est plus une vie. Je pleure. Il ne mérite pas ça. Je ne sais plus qui prier. Qui prier pour qu'il relâche. Mon mari, je ne sais pas s'il a vu l'espèce d'otage. Il doit demander tout le temps, est-ce que ça va être mon tour ? Je me mets à sa place, c'est terrible.
Vous saviez, Francis Colomb, par RFI, qu'il y avait eu ces exécutions ?
Oui.
Donc, vous posiez effectivement les mêmes questions.
J'avais plus de détails, ouais. Parce que c'était les forces nigériennes, avec ouais. Le MI-16, qui mm-hmm. avait tenté une action.
Oui, c'est les services secrets anglais. Hein.
Oui. Mmh. Les manques de peau, ça ne s'est pas passé assez vite. Ils n'ont pas réussi à inhiber les preneurs d'otages qui ont tué les otages.
Quoi. Et vous disiez, pourvu que l'armée nigérienne ne tente pas un coup de force pour me libérer. Ah,
je ne voulais surtout pas. Ah,
parce que vous saviez que ça pouvait se terminer en carnage.
Et puis, ce n'est pas non plus des enfants de cœur, l'armée nigérienne. Les forces spéciales nigériennes, attention, c'est pas des...
Alors, il y a une chose, on va parler des vidéos, là, parce qu'on y a fait allusion. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais moi il y a une question que je me pose en tant que lecteur pour l'instant. Quand vous apprenez ça, quand vous apprenez qu'il y a cette famille aussi avec ces enfants qui ont été pris en otage, Moulin Fournier, vous les engueulez carrément, vos ravisseurs.
Oui.
Vous leur dites, mais vous êtes des moins que rien.
Oui.
On n'a pas le droit de faire ça à des mômes. Vous êtes dégueulasse. La vie ne vaut rien pour vous, mais vous vous mettez en danger en même temps, non? Comment ils prennent ça?
Ils prennent pas ça bien. Et puis.
Et pour vous, c'est important de le dire?
Ah, ben oui, c'est important parce que c'est une façon de leur prouver que même en état d'infériorité, oui. On peut avoir une psychologie qui vous permet de dire non, je ne suis pas d'accord, vous vous rendez compte des femmes et des gosses. Oui. Et des gosses.
Oui. Et vous avez beaucoup pensé à ça, vous en parlez dans le livre. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous étiez, et vous saviez, et ça doit renforcer l'angoisse, la peur, même si vous avez dominé cette peur pendant ces 11 mois, elle est là quelque part quand même. Parce que vous dites, mais ces types, la vie ne vaut rien pour eux. Vous le dites à plusieurs reprises dans le livre.
Oui. Ce qu'il y a de très dangereux avec ces gens-là, c'est que. Alors, le mot gentil est trop fort, mais ils peuvent être, entre guillemets, gentils.
Ouais.
Et puis, dans la seconde qui suit. Prendre une cala, vous menacer, avoir envie de... D'ailleurs, j'ai eu certains gardiens qui n'attendaient que ça.
Mais il y a certains qui vous ont frappé parce que, par exemple, vous dites un jour, vous recevez, parce qu'il y a des rats aussi, je laisse ceux qui nous écoutent découvrir l'ensemble du tableau dans votre livre, mais il y a des rats un jour, et les rats, ils sont dans les plafonds, etc. Il y a une pierre qui tombe, ça vous tombe dans l'œil dans la nuit, vous êtes blessé, vous avez mal, et donc quand vous vous promenez dans cette fameuse cour, là, pas loin du loquet, vous bougez la tête un peu partout, ça déplaît à votre gardien et il vous donne un coup de crosse, quoi.
Oui, oui.
Et un coup de crosse de calage, ça fait très mal.
Oui, ça fait mal, surtout dans les règles et par derrière, quand vous n'y attendez pas.
Oui. Donc il y a cette violence qui est omniprésente.
Toujours.
Toujours.
Il y a un autre gardien, je voulais y parler parce qu'on était près d'une école coranique.
Mm-hmm. Oui, parce que vous entendiez les appels à la prière et les enfants dans la cour. Oui.
Et puis j'ai dit, hier soir, les enfants étaient très brillants. Il a cru que je disais ça pour son gosse. Parce qu'il était à côté avec la femme et le gosse. Et là, pareil, coup de crosse, il m'a rentré tout de suite, pas de promenade, etc. Ouais. Alors que je voulais parler des autres.
Ouais.
Mais parler avec eux, c'était pas facile, parce qu'ils parlent pas forcément l'anglais, ou très mal.
Ouais.
Là où ça, où ils parlent arabe. Ouais. Donc c'est pas évident, de la communication.
Alors, périodiquement... il y avait des gens qui venaient très nerveux, plus nerveux que ceux qui vous gardaient, avec le fameux manager, pour enregistrer des vidéos.
Ah oui, là, c'est pénible, là. Surtout qu'ils viennent, et vous savez que ces gens-là adorent s'afficher avec des calas, Nikov, quoi. Moi, je dis calas.
Oui.
Bon. Et le problème, c'est que...
Ils ont le doigt sur la gâchette.
Ils ont le doigt sur la gâchette, et vous savez jamais s'il
y a le camp de sécurité ou pas. Ou pas. Ouais.
Voilà. Alors là, c'est pareil... Et moi, je me retournais comme ça, là.
Ouais.
D'ailleurs, le manager, combien de fois il s'est mis à rire, parce que... J'ai dit, mais moi, c'est pas risible, quoi.
Ouais. Parce aussi, qu'il venait, il mettait une tenture noire, enfin ce qu'on a vu hein, dans les documents. Voilà, et puis ils viennent avec une vidéo, et là on vous donne un texte qui est en anglais en général.
Puis ça recommence. Puis moi j'avais quand même un problème. Bon, je ne suis pas excessivement anglophone, je ne parle pas l'anglais couramment, mais plutôt l'anglais de chantier. Hein.
Ouais, ouais.
Et j'avais un problème, je n'avais pas mes lunettes non plus.
Ouais.
Et il me mettait la truc à lire, c'était assez loin. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, c'était assez difficile à faire l'effort de lire. Hein. Mmh. Et puis, moi, j'essayais de lire avant pour, jamais il me faisait dire une bêtise, j'aurais dit non, moi, je...
C'est ça, oui. Oui, parce que la revendication, c'était, il voulait le port du voile
en France,
et il voulait la libération d'un certain nombre de membres de leur commando.
Oui, de gros poissons, mais comme au Nigeria... Ils prennent les femmes et les gosses, ça faisait 40 personnes.
Oui.
Et ils voulaient surtout qu'on s'en aille du Mali.
Du Mali, voilà. Donc, parce que tout ça, c'était pendant l'opération Serval. Voilà. Et donc, pour vous, c'était terrible aussi parce que vous saviez qu'ils voulaient donner une image dégradée de vous. Vous voulez que vous ayez la barbe pour qu'on pense que vous étiez converti, c'est ça vous me dites, hein, bon.
Oui.
Et en même temps, effectivement, vous perdez du poids tout le temps, vous n'êtes pas en pleine forme. Hein.
Alors qu'avant cette vidéo, j'avais me donnait quand même un rasoir et j'avais jamais eu la barbe.
Ouais.
Sauf que là, ils ont voulu faire une vidéo comme si j'étais... Ouais.
Et ce qui est extraordinaire, on imagine, c'est vous en parlez longuement aussi, les services secrets qui vont étudier à la loupe ces vidéos pour essayer de connaître votre état de santé. Et les médecins spécialisés, les experts des services secrets vont dire, et vont dire aussi à votre famille d'ailleurs, il n'est pas beau à voir, mais
il tient le choc.
Il tiendra, voilà, il tiendra le choc. On va faire une dernière pause dans cette émission, puis après on va parler de cette libération, puisque cette auto-libération, cette évasion spectaculaire, au bon moment, voilà. Et vous allez nous raconter dans quelles circonstances ça s'est passé.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
11 mois, moins 4 jours, enfermé d'abord entre quatre murs, avec cette volonté quotidienne d'entretenir la forme, en marchant autour de ce matelas, de graisser le fameux loquet avec l'huile des beignets ou de la nourriture qu'on vous donnait quand on vous en donnait, ce qui était pas, ce qui a posé des problèmes, et d'ailleurs, vous avez maigri de 40 kilos en moins de 11 mois, et puis au moment où la porte peut s'ouvrir, on vous change d'endroit, on vous amène dans une autre région, et là, de nouveau, eh bien, vous reprenez le problème à zéro, hein, en tant qu'ingénieur, les conditions ont changé, va falloir essayer de vous échapper, et vous allez nous raconter dans un instant dans quelles circonstances. Mais d'abord, je voudrais prendre l'histoire à l'envers, hein, parce que c'est une happy end, évidemment, et on peut imaginer la joie de votre épouse, Anne-Marie Collomb, lorsque le 17 novembre 2013, vers 11h du matin, ou quelques heures après, elle apprend votre libération. Écoutez.
Je suis soulagée. Vous savez, quand j'ai appris la libération de mon mari, mon Dieu, j'ai dit, enfin, il est libre. Il est libre, mais je pense aussi aux autres otages, hein, qui sont toujours en otage, les autres compatriotes, quoi. Parce qu'on était toujours tous ensemble pour soutenir un à l'autre, quoi. Vous savez, ça me fait de la peine pour les autres. Si bientôt, ils seront libres.
Et c'était donc Anne-Marie Collomb au micro de Raphaël Vantard sur RTL. Le lendemain, le 18 novembre, François Hollande est en visite en Israël. Écoutez ses premiers mots quand il fait sa première déclaration sur l'évasion de Francis Collomb.
Je suis fier de lui parce que c'est un homme qui a été capable de tenir bon. Il était capable de parler clairement, nettement, et de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il venait de vivre. Voilà, il y a des Français qui font honneur aux Français.
François Hollande au micro d'Isabelle Dath, et puis Laurent Fabius, qui accompagne le président de la République, va prendre un avion en catastrophe pour venir vous chercher. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé quelques heures plus tôt? Alors, ce 16 novembre, vous êtes dans une nouvelle maison, vous avez refait des plans, vous avez réexaminé les environs. Ça se complique parce que le fameux Abdoul, dont vous avez parlé au début de l'émission, qui est votre joaillier principal, il vient se laver tous les jours parce que dans sa chambre, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche. Mmh. Il vient se laver dans l'endroit où vous êtes prisonnier. Et c'est une surveillance de plus, quoi.
Oui, mais ça m'a permis d'en profiter parce que ça faisait deux fois qu'il oubliait les clés sur la serrure.
Ah, il rentrait dans votre chambre et puis à un moment, il s'est mis à oublier de
prendre
refermer.
Les clés et de refermer. Ouais. Et manque de peau, les deux premières fois, c'était en plein jour.
Ouais. Et vous pouviez rien faire, vous savez que c'était...
Non, en plein jour, c'était trop dangereux. Ouais. Par contre, j'ai dit, mon petit gars, si tu fais ça la nuit... ou à la tombée de la nuit, oui. Là, je suis prêt, je partirai. J'avais déjà tout préparé.
Il hein, faut dire que par la fenêtre, vous aviez vu qu'il y avait des gens qui allaient vraisemblablement vers ce qui était le centre-ville de cette ville que vous ne connaissiez pas. Vous saviez qu'il fallait tourner à droite après une impasse.
Exactement.
Quoi,
hein,
et vous aviez préparé dans votre sac à dos, dans lequel personne ne regardait, en fait, votre équipement. Quoi, hein, voilà.
J'ai même, sur un coupon, il y a une pastille qui s'est décollé, mais oui. En long, et je l'avais mis dans ma bouche, oui. Sur la langue, oui. Et quand j'ai refermé, j'ai retiré les clés, et j'ai mis la pastille.
Ah, pour bloquer la serrure.
Pour interdire, oui. Ils ont été obligés de casser la porte pour le libérer, hein, certainement.
Parce que vous aviez minuté le temps que mettait votre joaillier à se laver, alors il faut dire qu'il y a les cinq ablutions rituelles, oui. Pour les cinq prières de la journée, donc vous saviez combien de temps ça durait, vous saviez qu'il commençait par se laver la tête, vous saviez qu'à un moment, il serait dans une... Vous aviez choisi dans votre minutage le moment où il aurait le plus de mal à réagir, c'est-à-dire le moment où il devait être assis pour se laver les pieds, quoi, en gros, hein.
Exactement.
C'est ça. Et vous écoutiez à travers la porte.
Exactement.
Ouais.
Et quand vous prenez la décision, bon, moi j'aime pas le terme héros ou courage, mais c'est là le palpitant, je pourrais dire.
Il va à 300 à l'heure.
Ah
là.
Ouais, ouais. C'est... Ouais. Bon, après, quand j'ai réussi à refermer la porte et puis que le salon était vide, parce que j'aurais pu tomber sur notre gardien. Hein,
c'était... Alors c'était 18h, un peu plus de 18h, ouais. Donc la tombée de la nuit, voilà. L'impasse.
Je sors, et dès que je suis sur la latérite, le bout de chemin, je sème mes broquettes, mes fameuses broquettes.
Alors ça, c'est des petits clous que vous aviez méticuleusement récupérés, tordus, voilà. De façon à ce que si on vous poursuivait en voiture, les pneus...
Ils crèvent.
Crèveraient, voilà.
Voilà.
Fallait quand même... c'est extraordinaire, ça.
Ben oui, donc, mais...
Et puis là, alors, je ne sais pas comment vous avez interprété ça, mais un peu, c'est peut-être le destin. Il y a un gars qui arrive par derrière, vous aviez un chèche pour ne pas vous faire remarquer, le seul blanc dans une ville où il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y a un gars qui arrive, c'est un mototaxi.
Voilà.
Et il vous dit, je vous emmène où ?
Non, il me dit si je voulais l'utiliser, quoi.
Oui, oui.
Moi, je lui dis, oui, mais je lui parle en Naoussa. Donc
d'accord.
Déjà, ouais. Parler en Naoussa, ouais. Je lui dis Barao, parce que Barao, ça veut dire voleur en Naoussa.
Voleur, ouais.
Et que je voulais aller au poste de police.
C'est ça, vous avez été victime de voleur, vous voulez aller déposer chez la police. Ouais.
Donc il me prend derrière, et manque de peau, il retourne vers le lieu de détention.
Ah.
Alors, heureusement, au croisement, mais à 200 mètres de là où j'étais déçu,
il tourne
à droite.
Ouais, d'accord. Et là, vous arrivez au poste de police, vous n'avez pas d'argent d'ailleurs pour le payer.
Voilà.
Mais vous lui expliquez, puisqu'on vous a volé, vous n'avez pas d'argent.
Je pense que la police
lui a donné après. Ouais.
Voilà.
Et là, il y a des policiers qui s'attendent à tout sauf à voir débouler quelqu'un qui leur dit ça fait 11 mois que je suis otage de Ansaru.
Puis c'est comme aux États-Unis, c'est des États par État. Donc ils ont été obligés de téléphoner à Katsina, qui est un autre État, pour avoir la confirmation que. Puis moi, je leur ai mis la pression parce que je leur ai dit. On va être attaqué.
Et d'ailleurs, c'était le cas. Enfin, en tout cas, il y avait une cinquantaine de personnes à vos trousses. Hein, vous l'avez appris.
Ouais. Je l'ai appris par la suite.
Par la suite.
Ouais.
On va s'arrêter là, Francis Collomb. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je renvoie tous ceux qui nous ont écoutés à votre livre, où tous nous avons survolé les grands moments, évidemment. Mais c'est un livre qui est passionnant et qui se lit, effectivement, comme dirait le président Hollande, comme un roman d'aventure. L'évasion, otage des djihadistes au Nigeria. Et je voudrais qu'on termine en écoutant quelques secondes d'un dernier document RTL. C'est pas long, hein, c'est 30 secondes. Le 22 novembre, une semaine après votre retour en France, vous êtes reçu par le président de la République à l'Élysée. À la sortie, il y a Pierre Julien avec un micro RTL.
Je suis très émotionné parce que c'est quelqu'un de très chaleureux. Vu les examens que j'ai passés, tout va bien. Je reste un petit peu encore émotif quand on parle du relationnel avec ma famille, qui est nombreuse, aussi bien sur la France que sur la Réunion. Deux oreilles, comme j'ai dit au président, je suis devenu un créole d'oreilles. Et j'étais très choqué par tous les endroits où je suis passé. Il y a des comités de soutien qui se sont créés et j'ai un énorme boulot pour aller remercier tous ces comités de soutien. J'ai eu de la chance. Je voudrais que la pesée médiatique descende parce que je préfère être un quidam et le terme héros, ça ne me plaît pas tellement.
Un quidam plutôt qu'un héros. Bah, des quidams comme ça, on en prendrait bien près de nous. Je vous remercie infiniment, vraiment. L'émission est maintenant terminée. Le flash dans une minute, hein, les infos. Et puis ensuite, ce sera le tour de Flavie Flamand.